Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du meurtre à la Breaking Bad. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Guillaume Maury. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
Juillet 2015. Pendant que les habitants cherchent un peu de fraîcheur sur les berges de la Garonne, la famille et les amis d'Eva Bourceau s'inquiètent. L'étudiante vit seule, dans un studio tout simple, sous les combles d'un immeuble du centre-ville.
Béatrice Weber, tante d'Eva Bourceau.
Eva ne répondait plus au téléphone depuis plusieurs jours. Donc, ma sœur s'inquiétait. Mais bon, la dernière fois qu'ils s'étaient eu au téléphone, elle s'était un petit peu disputée. Donc, elle s'est dit, bon, elle boude. Elle va pas me répondre. Et puis après, bon, bah voilà, passé quelques temps, elle va finir par me répondre.
27 juillet, 15h27. Hello, je peux passer ? 15h42. T'es chez toi ? Je récupère ma casquette ? 16h28. Je peux débarquer vers 17h, 20h19. T'es là ? 28 juillet, 12h02. Ça va ? 28 juillet, 13h55. T'es morte ou quoi ?
Eva ne répond plus et ne poste plus aucun message. Ce silence alarme Anaïs, son amie d'enfance.
Anaïs Nerrière, amie d'Eva Bourceau.
Eva pas connectée sur Facebook, c'est pas normal, parce qu'elle est tout le temps sur les réseaux, normalement, et qu'elle répond tac au tac, c'est même elle qui dit « Eh, réponds », donc du coup qu'elle fasse silence radio, oui, non, c'est pas normal.
Les amis d'Eva partagent alors leurs recherches sur les réseaux sociaux.
J'ai vu qu'il y avait plein d'amis qui commençaient vraiment à s'inquiéter et qui venaient me voir. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a vraiment alarmée qu'elle réponde ni à moi ni à tous ses proches du moment. Donc là, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. J'attends 3 jours et au bout du 3e jour, je vais chez elle. C'est un immeuble avec des interphones, je sonne chez elle. Mais ça répond pas, forcément. Et j'aurais dû sonner chez les voisins et faire plus. Et je m'en veux.
Au bout de 8 jours sans nouvelles, Anaïs alerte la famille d'Eva.
Donc ma sœur a pris la décision de partir le lendemain, après sa journée de travail, sur Toulouse.
Le lundi 3 août, vers 21h, la mère d'Eva tambourine à la porte de sa fille et appelle les pompiers à l'aide pour fracturer l'entrée.
Pompiers, écoute.
Des pompiers qui comprennent tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire pour Eva et empêchent la maman d'entrer en attendant la police. 45 minutes plus tard, la PJ et le procureur de la République de Toulouse débarquent rue Merly.
Docteur Anthony Blanc, médecin légiste.
Vers 22h, j'ai un appel du procureur de la République qui me dit qu'ils ont fait une découverte d'un corps, d'un cadavre. J'ai pas beaucoup d'informations. Il me dit d'emblée que c'est d'apparence criminelle, puisque le corps est dans une boîte, en plastique. Le procureur de suite m'indique ce qu'il veut en fait. Il me dit c'est simple, la priorité c'est l'identification pour que je puisse répondre à cette maman parce qu'elle est dans la voiture, elle pleure, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc il m'apporte quelques informations qui vont me permettre de l'identifier. Alors il me cite quelques éléments particuliers, des tatouages, quelques piercings, etc. que je pourrais peut-être reconnaître et pour identifier la victime.
Les policiers experts en scène de crime effectuent déjà les premières constatations quand le légiste arrive au troisième étage.
Quand on rentre sur une scène de crime, on a une démarche d'enquête assez progressive. On fait toujours du plus éloigné au plus près du corps. Et donc je m'approche progressivement et je découvre cette pièce. En fait, qui est une sorte de salon salle à manger avec une petite cuisine.
Le légiste patiente dans le salon, en attendant que les experts terminent leurs constatations dans la chambre.
Donc je vais rester dans cette pièce, à regarder autour de moi, et je vois toutes les affaires qui sont dans des sacs. À mon souvenir, ce sont des sacs poubelles, de couleur gris foncé. Et il y en a un peu partout, c'est étalé tout autour des pièces, tout autour des murs. Il y a plein de sacs poubelles, on a vraiment l'impression que quelqu'un a préparé un déménagement.
12 sacs poubelles, 12 bouteilles et 3 bidons d'acide chlorhydrique, vides.
À mes pieds, je vois un sac, avec le pied je touche et je vois quelque chose de dur. Donc je mets une de mes gants et en regardant, je découvre un pied de biche. Avec à l'extrémité ce que je reconnais être des éléments du corps humain, comme de la chair, qui sont en état de putréfaction. Et là, je me dis de suite, là ça fait partie sûrement de la scène de crime, c'est peut-être l'arme du crime. Donc de suite, je dis aux enquêteurs, hop, attention, il y a quelque chose.
Le médecin légiste peut maintenant entrer dans la chambre où se trouve le corps.
Paradoxalement, quand je rentre de cette pièce, il n'y a pas d'odeur particulière. Alors qu'en tant que médecin légiste, lorsqu'on a des corps qui sont abîmés par le temps, etc., on a des fortes dégagements d'odeurs très désagréables. Là, pas du tout. Au pied du lit, on a une grande boîte en plastique, d'accord, qui est fermée, avec dessus une bombe de déodorant et une bombe d'insecticide. La porte de communication entre le salon et la chambre a été calfeutrée avec du scotch. La fenêtre a été calfeutrée et la boîte ici a été calfeutrée avec du scotch. Et après, tout est rangé, tout est propre, la serpillière a été passée, donc tout est propre. Donc on voit que vraiment, il y a un niveau de préparation, après le décès, pour éviter qu'il y ait des odeurs, pour éviter qu'on puisse repérer le corps. C'est très rare qu'il y ait ce niveau-là d'organisation.
Le légiste s'approche de la boîte.
Alors c'est une boîte qui est assez grande, mais le corps pour y rentrer a dû être plié, vraiment de manière très comprimée, pour entrer dans la boîte. Une boîte en plastique, remplie de liquide, dont on ne connaît pas l'origine, et donc je commence l'examen. Et de suite, je suis frappé par une observation. Je vois des parties du corps où il manque manifestement des parties. Il manque des lambeaux de chair, des lambeaux d'os, comme si on avait donné des coups de machette ou des coups de coupe-coupe pour la couper, pour la faire rentrer dans la boîte, je ne sais pas. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai sur le moment, lors de la levée de corps.
Le corps est si dégradé que le légiste ose à peine le toucher. Il doit pourtant essayer de trouver un des signes distinctifs dont le procureur lui a parlé.
Et en manipulant doucement le corps, je vais trouver un tatouage qui était une sorte de petite chauve-souris au niveau du pli de laine. Donc une petite chauve-souris, ça fait de l'ordre de 1,5 cm, 2 cm, c'est très petit comme tatouage. Et donc ça permet donc de confirmer que c'est bien Eva Bourceau qui est morte et qui est dans cette boîte.
Luna Weber, cousine d'Eva Boursault.
J'étais chez ma mère, on se met devant la télé et le téléphone sonne. Et là, j'entends ma grand-mère qui hurle au téléphone et ma mère qui me dit « c'est Eva ». Et là, je comprends pas de suite. Eva, qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ben Eva, elle est morte.
Donc on apprend toute l'horreur, en fait. Hein. C'est Eva qu'on a retrouvée dans une malle. C'est juste impensable. Il faut d'abord, pour nous, je pense, et pour la maman déjà, c'est d'abord la première chose, c'est d'accepter, quoi, de comprendre et de réaliser surtout que sa fille est morte. C'est surtout ça d'abord. Le reste qui s'est passé après, l'horreur d'après, on ne fait pas le lien, on ne percute pas avec ça. C'est juste, pour sa maman, c'est on a tué ma fille, quoi.
Et on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui, quoi, comment. Et là, c'est le... C'est horrible. Donc on tombe par terre, on prend la voiture, on s'en va. Et puis là, ça commence. Et puis là, votre vie, elle change. À partir de ce moment-là, votre vie, elle change. Complètement. Et puis ça détruit toute une famille.
Eva Boursault avait 23 ans. Dominique, que relèvent les tics dans le petit appartement d'Eva Boursault ?
Le voilà son appartement, Rachid. Une pièce principale, une chambre, c'est tout petit. Le corps est retrouvé dans cette malle, ici. Il y a 12 sacs poubelles, un pied de biche, un lit sans les draps, et puis ce seau et ce balai qui ont servi à nettoyer grossièrement la scène de crime. Ça, c'est la porte de la chambre qui a été calfeutrée avec de l'adhésif. En dessous, un pull a été roulé pour éviter les odeurs de putréfaction.
Le légiste parle d'une scène de crime inédite pour lui.
Oui, parce que les techniciens d'identification criminelle vont y passer 2 jours pour tout exploiter. Hein. Alors, il va falloir travailler sur les sacs poubelles, les vider, exploiter leur contenu, faire des relevés, des empreintes digitales, faire des relevés ADN sur le seau, sur le manche à balai, sur le pied de biche, sur tout ce qu'on va retrouver dans cet appartement. Ils vont aller fouiller jusqu'entre les lames du parquet. 158 photos vont être faites, qui vont être versées au dossier, notamment des photos de projection de sang. Il y en a partout. En fait, ça révèle une scène de crime très violente.
Et une volonté farouche de faire disparaître le corps.
Oui, le légiste a évidemment interdit aux techniciens de toucher au corps. Il a été retrouvé, Rachid, dans une malle de la dimension de celle-ci.
Eva, 20 ans, 1m70, dans une malle comme celle-ci.
Et la difficulté, ça va être de descendre cette malle dans cet escalier impraticable qui mène à son appartement. Donc, le légiste va juste autoriser les techniciens à purger le liquide qui se trouve à l'intérieur, à le conserver parce qu'il va devoir être analysé. Il y en a 28 litres. Et ensuite, le corps sera transporté à l'Institut médico-légal.
Docteur Anthony Blanc, médecin légiste.
On arrive à l'autopsie le lendemain. Habituellement, le médecin légiste, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la plupart des films, il est assez caricaturé, il est froid, il ne ressent rien, le corps, la mort ne le touche pas. Or c'est pas vrai, hein, bien sûr que c'est pas vrai. Ça ne nous touche pas parce que la plupart du temps on a affaire à des corps morts, des corps sans vie. Et quand je dis sans vie, c'est sans histoire, sans connaissance de leur famille, de leurs amis, il n'y a pas d'affect. C'est un corps qui est mort, qui n'a pas de vie. Et là, je suis resté pendant un quart d'heure devant cette porte à regarder des photos d'Eva, sa famille, ses amis, ses soirées, ses sports, ses loisirs. Il y avait une multitude de photos d'elle. Du coup, pour moi, elle a commencé à exister en tant que personne, en tant qu'histoire. Et alors, du coup, il y a de l'affect que j'ai ressenti en fait, durant cette enquête, que d'habitude, je ne ressens pas, parce que je n'ai pas affaire à ces photos personnelles.
Passé son émotion, le légiste se met au travail.
Et je me rends compte en fait qu'il manque des morceaux de corps. Il y a un bras qui a totalement disparu. Il ne reste plus rien. Et je me rends compte à la manipulation du corps, tout doucement, que tout le corps est très abîmé. L'os est friable, il part presque en poussière quand je le manipule. Les chairs, les muscles, pareil, partent comme s'ils avaient été cuits. C'est là que je comprends que c'est sûrement l'acide chlorhydrique qui a dissous les chairs, les muscles, les peaux, les os. Et c'est pour ça qu'on a cet aspect-là. Et cet aspect où j'ai l'impression qu'on a donné des coups de machette, en fait, c'est le niveau de l'acide qui a fait disparaître à ce niveau-là les chairs.
Malgré la désagrégation du corps, le légiste trouve de nombreuses lésions.
On voit qu'il y a des éléments qui ressemblent plus à des coups, notamment au niveau du bras droit, où on voit des traces plus foncées. Donc pour nous, ça évoque que ce sont des hématomes, qui sont classiquement, pour le médecin légiste, ce qu'on appelle les lésions de défense. Lorsque je suis agressé, je mets mes bras en avant pour me protéger, et ce sont ces parties-là du corps qui sont impactées. On retrouve le nez, qui est cassé, une grosse fracture du nez.
Et d'autres lésions encore, au niveau du crâne.
Deux lésions, principalement, un du côté droit, où on a une lésion du cuir chevelu qui est verticale et qui, pour nous, évoque un coup par un objet dur et linéaire, long. De suite, ça me fait tilt par rapport à ce que j'ai trouvé sur place, c'est-à-dire le pied de biche. J'ai dit, voilà, ça, peut-être, parce que ça restera confirmé, peut-être que c'est l'arme du crime et c'est cet objet-là qui a donné cette lésion-là.
Et c'est encore ce pied de biche qui a sans doute causé la seconde lésion. Une fracture du crâne côté gauche. Des coups qui auraient entraîné la mort d'Eva. Mais le corps est trop abîmé pour que le légiste puisse travailler sur l'hypothèse d'un crime sexuel.
Cette macabre découverte à Toulouse, un corps enfermé dans une malle a été retrouvé dans un appartement.
Luna Weber, la cousine d'Eva Bourceau.
On a envie de tout arrêter, on a envie de dire stop, arrêtez d'en parler. C'est ma cousine, c'est ma famille. Je veux pas que ça se sache, je veux pas que n'importe quoi se dise et on ne peut rien faire contre ça.
La scène est effroyable.
Le meurtre d'Eva, la jeune étudiante.
Le corps d'Eva en partie dissous par de l'acide.
Béatrice Weber, la tante d'Eva Bourceau.
On voit la police scientifique qui sort la malle, mais on réalise pas en fait quoi. C'est juste pas possible pour nous quoi. Et ils ont détruit son corps quoi. C'est un double meurtre quelque part quoi. Quand on va le jour de l'enterrement faire nos adieux à Eva, on a une bâche, nous. On fait nos adieux devant une bâche. On ne voit pas son visage, on ne pourra plus la voir. C'est... Voilà, on a juste ça, nous. Il nous reste ça. À ce moment-là, la dernière image qui nous reste d'Eva, c'est une bâche. Il va falloir se reconstruire pour avoir d'autres images, pour que les souvenirs d'avant reviennent. Mais à ce moment-là, c'est ça qu'on a. Et ça, c'est juste horrible. Moi, à ce moment-là, je pense à sa mère, quoi. Voilà ce qu'on a laissé à sa mère.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au meurtre à la Breaking Bad. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, L'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.